Bon, on arrive à la fin, donc comme prévu, c'est Marc Scotto, qui est délégué général auprès de Mme Claire Pulset, défenseur des enfants, qui va conclure nos travaux. Allez-y.
Monsieur le Président, Madame, comment je dis la mère ?
Moi, tu dis Martine, toi. Oui, c'est ça, c'est la chapelle.
Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs. Donc, c'est à moi qu'il appartient de faire une fin pour cette journée, mais c'est plus particulièrement sur cet après-midi que je vais conclure, parce que ça concernait essentiellement les droits d'enfant. Je vous renouvelle toutes les excuses de Claire Pulset qui inaugurait une maison des adolescents ce matin à Besançon et va ce soir parler devant une association à Toulouse des droits de l'enfant. Donc ça fait un périple considérable. Voilà. Alors, c'est une riche journée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tirer toutes les conclusions. Mais je vais d'abord vous rappeler comment nous, quelle position on avait par rapport au débat de cette journée et comment notre institution se structure son regard dans ce débat. Alors, le défenseur des enfants, vous le savez tous, mais enfin, quand même on le rappelle, a été créé par le mois du 6 mars 2000 et elle est une autorité indépendante. Et elle est chargée de faire respecter les droits des enfants, d'être qu'ils sont inscrits à la fois dans les lois françaises, mais aussi plus particulièrement, et ça a été beaucoup évoqué cet après-midi, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, donc qui est un traité international, ça a été fort bien dit par tous ceux qui sont succédés à la tribune, et qui est ratifié par la France depuis 1990. C'est ce traité qui est petit à petit intégré par la jurisprudence française et qui, en matière de ça, effectivement, prend de plus en plus d'importance. Notre institution, pour structurer ce regard, le structure à travers d'abord ses missions. Elles sont au nombre de quatre, mais c'est surtout les deux premières qui sont importantes. La première, c'est d'accueillir des requêtes individuelles, des protestations, des réclamations d'individus qui ont été, donc, les enfants, ou les enfants eux-mêmes ont vu leur droit dénié. Nous, on intervient quand tout est cramé. C'est-à-dire que la justice s'est cassée les dents, tout le monde s'est cassé les dents. Et alors, on nous dit, Jean, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je vais essayer d'expliquer en 3 minutes, parce que je sais que c'est hyper pressé. Alors, sur l'accueil de réclamations de type individuel, on n'a pas énormément d'affaires de dérives sectaires. On a des affaires de dérives sectaires à travers les divorces. Et donc, on est exactement comme pour les allégations d'abus sexuels ou d'attouchement, toujours un peu dans une observation assez fine du paysage. Alors, bien évidemment, on ne peut pas remettre en question la chose jugée, c'est écrit dans notre droit. Mais on a par ailleurs obligation de signaler au procureur toute mise d'un enfant en danger. Alors, admirez bien l'astuce, quand on sent qu'une affaire est sérieuse, que ce soit en matière d'abus sexuels ou en matière de délits sectaires, on va dire au procureur que, nonobstant le jugement du juge aux affaires familiales, par exemple, nous pensons qu'il y a un problème de danger pour l'enfant. On ne lui dit pas, c'est ce jugement qui a mis l'enfant en danger, non, on n'est pas comme ça. On va faire un truc extrêmement contourné. Et ça va faire courir le dossier dans la plupart des cas, et ça va remettre la question sur le tapis, et en plus, ça va mouiller un juge pour enfants. Puisqu'on a dénoncé un grand nombre, enfin, également. On est habilité à faire le signalement. Donc, ça, c'est pour le traitement des affaires individuelles, parce que j'ai eu plusieurs questions tout à l'heure avant les pouvoirs, et je voulais faire une interprétation officielle de la loi. Deuxième mission, c'est comment l'État, nos institutions, se comportent vis-à-vis des enfants, compte tenu de tous ces droits qui sont dans la Convention internationale. Et là, on rejoint ce qu'évoquait Martine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, en matière éducative, en matière de santé, dans toutes sortes de domaines, on s'aperçoit déjà qu'il y a des inégalités territoriales, qu'il y a diverses choses qui interviennent, qui font que ces droits sont plus ou moins respectés en France. Voilà. Et donc, nos 5 rapports, on a fait 6. On a fait 6 rapports, portés chacun sur un grand domaine comme ça, sur une institution, et on a essayé à chaque fois de mettre à jour ce qui allait, ce qui n'allait pas, et où on pouvait améliorer les choses. Le dernier sur la justice, le précédent était sur l'aide sociale à l'enfance, le précédent sur l'éducation, le précédent encore sur la santé, je crois, voilà, et sur les prisons, sur les mineurs étrangers isolés, dont certains tombent dans les griffes des sectes. Voilà, donc, pour les sectes en particulier, bien sûr, ça contrevient à divers articles de la Convention internationale, et de très nombreux. on a dit des choses extrêmement intelligentes, je ne vais pas les reprendre parce que, un, ce serait trop long, deux, je ne saurais pas, sur la culture de la filiation, sur le fait qu'une secte commence par couper la notion même de filiation et d'identité. Bon, alors ça, c'est l'article, je ne sais plus, c'est 8, je crois, voilà. Ensuite, on a parlé de la santé, des soins médicaux, des vaccinations, des carences alimentaires, tout ça. Là, on a un énorme paquet et la Convention internationale est une sorte d'injonction sur plusieurs articles de préserver le développement, de favoriser le développement harmonieux d'individus sur tous les plans, sur le plan physique, mental, spirituel, moral, social. Hein, c'est dans l'article 27, mais je crois que c'était aussi l'article 24. Là-dedans, on peut effectivement s'appuyer sur certaines choses les plus concrètes, parce que c'est vrai que, ça c'est un conseil à donner à tous les avocats, il faut s'appuyer sur les choses les plus concrètes, y compris parce qu'on va les trouver dans cette convention, ils existent quelque part. Bien, il y a aussi donc tout ce qui concerne la scolarisation, rassure-toi, je ne vais pas redoubler la chose sur la scolarisation, mais aussi on peut signaler que les activités ludiques et créatrices sont souvent aussi bouclées, et là on contrevient à l'article 31. Bien, alors on passe à des choses encore plus radicales, on a bien sûr dans certaines sectes de la corruption mineure, de l'incitation de mineurs à gauche, donc des menaces sur l'intégrité physique, soit par des coups, des mutilations et autres, soit par des agressions sexuelles et des tables viols en réunion. Voilà. Alors, ça, c'est pour situer notre position. Notre autre mission, c'est de faire évoluer les textes et de faire la publicité sur le droit de l'enfant. En matière d'évolution de textes, je suis assez d'accord. Ce matin, on a dit que tous les textes existaient. L'important, c'était de les faire appliquer et de les faire appliquer par des partenaires qui se coordonnent. Bon, toutes ces affaires qu'on a vues, c'est pas sectaire, c'est des affaires toutes bêtes de protection de l'enfance. Quand on regarde 36, des choses comme ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème de coordination, de mise en commun d'informations concernant le même enfant, la même famille. Et là-dessus, je crois que le prochain projet de loi, même si j'ai des réserves sur un tas de choses, sur ce plan-là, va faire avancer un petit peu les choses. Voilà. Alors, je vais passer sur la circulaire de 2005, que je n'ai pas tout à fait compris, qui substituait des faisceaux de critères à l'islamisme, mais je ne reviens pas, il paraît que ça va bouger. Hein. Voilà. Alors, je m'étais posé d'ailleurs des questions pour savoir si, dans une secte avec des ramifications, on pouvait dissocier le cœur de la secte, qui aurait des activités en contravention avec la loi, et puis des versions de la secte qui seraient tournées vers le public sous forme de cours de soutien, cours de musique, etc. Et si, en lisant le texte, en le relisant, je me disais, mais finalement, on pourrait détacher la partie, disons, visible de ce qu'est le cœur de la secte. Ça, le texte de l'Allemagne, tout ça, c'est fini. Alors, un danger qui nous préoccupe beaucoup, défenseur des enfants, hein, ça c'est la pénétration des sectes dans le champ de la protection de l'enfance elle-même, c'est-à-dire dans le domaine, pas seulement de l'école, du périscolaire, mais aussi dans le domaine du soin, de l'adoption, de la garde d'enfants, etc. Il y a eu quelques affaires importantes. Je crois que l'intervention a bien illustré une partie de ces choses-là, mais nous, on a vu des conseils généraux qui ont dû licencier des assistantes maternelles et qui ont dû s'opposer à des adoptions parce qu'ils avaient pu repérer qu'il y avait à l'origine des phénomènes un peu étranges. Hein. Donc c'est cette pénétration un peu souterraine et difficilement visible, difficilement contrôlable, qui nous fait le plus peur, et notamment dans les instituts de formation. Hein. C'est vraiment toutes les professions orientées vers l'aide, le soin. Si elles étaient pénétrées par ces groupes en grand nombre, nous aurions beaucoup de difficultés. Voilà, dans les préconisations du dernier rapport de Milic, le prochain va sortir, il y avait des choses qui nous avaient intéressé beaucoup, c'était à la fois la précision de la notion d'élu sectaire dans les 10 propositions terminales et la pérennisation des cellules de vigilance. Alors, moi j'ai un peu, bien sûr, sachant que je viens ici, j'ai un peu parlé avec les gens de 94, c'est mon département, à Val-de-Marne, et donc on m'a dit oui, il faut que ces cellules se muent, qu'elles se pérennisent. Et alors j'avais une demande à faire à M. Roubaix.
Il a été obligé de partir.
Très bien. Nous souhaitons que nos assemblants territoriaux participent à ces commissions de vigilance comme les associations. Nous sommes partie prenante de la lutte contre les sectes. Hein, c'est une petite demande pour le défenseur. Voilà. Et puis, toujours en relation avec cette association, pour moi, c'est sur le terrain que ça se joue. J'ai trouvé que le témoignage de Anne, à ce titre, était extrêmement important, parce qu'il y a une méthodologie derrière, et que c'est cette méthodologie qui est la seule possible. Le partenariat, la mobilisation de tout le monde, l'information des familles aussi, la capacité à informer et le grand public et les professionnels, et les professionnels, bien sûr, de les former, pas seulement des informés. Voilà. Donc, moi, je voudrais en terminer là, parce qu'on est un peu tard. Je dirais, un, que je me suis bien plus toute la journée, et deux, que j'ai beaucoup appris. Merci à tous, en particulier sur l'insignifiance. Sur l'insignifiance, j'ai actuellement un problème de divorce avec circoncision. Je ne sais pas quoi faire. Et le discernement. Le discernement, demandez au magistrat aussi, hein, parce que. Ils sont peut-être pas sur 7-8 ans, le magistrat. On leur a dit qu'ils avaient la possibilité d'écouter les enfants. Sur ça, je pourrais faire un deuxième exposé sur l'audition de l'enfant. On est assez dessus là. Voilà. Et le discernement, etc. Bon, alors j'arrête là parce que sinon on rentre sur autre chose.
J'ai simplement. Quelque chose d'intéressant que vous avez dit, c'est en fait, quelque part, si j'ai bien compris, la défenseur des enfants est peut-être un recours supplémentaire lorsque, je pense notamment aux parents, dans le cas d'un divorce avec un parent, un garde d'enfant, etc., peut-être un recours supplémentaire par rapport à l'ensemble des procédures qui ont déjà, malheureusement, dans certains cas, adoptées. Bon, ça ne marche pas toujours simplement. Je pense que c'est important parce qu'il y a des cas véritablement, on a des témoignages. Où il n'y a plus de recours, les parents sont complètement perdus. Même les associations, parce que, bon, encore une fois, parce que peut-être que l'avocat s'est mal débrouillé, etc. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que c'est assez peu connu, la possibilité défenseur des enfants d'intervenir. Et je pense que là, en fait, vous jouez une sorte de médiateur bis sur des sujets particuliers comme cela, et je pense que ça mériterait quand même d'être connu.
On n'a pas de faire de médiation en matière sectaire.
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Par ailleurs,
c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez expliqué que diplomatiquement, effectivement, vous mettez ça sur un terrain de danger, en changer.
On change la balle de danger.
Voilà. Et c'est vrai que si, dans un certain nombre de cas, on peut réouvrir, vous imaginez la possibilité que ça va pour un certain nombre de parents qui sont des individus qui sont complètement perdus parce que, on a du mal ensuite de faire des choses jugées. De faire une chose. Ça, c'est.
Et deuxième chose, si ça ne marche pas, on discute pas mal. On apprend aussi à travers les expériences.
Oui, merci. Je voulais simplement dire à Marc Scotton et à tous ceux qui sont ici que sans déflorer le prochain rapport de la Mivilude qu'on a examiné il y a quelques jours, il y a notamment un constat sur les cellules de vigilance. J'y reviens une seconde parce que c'est très important et on en a parlé un certain temps pendant le conseil d'administration. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même pas moins de 2/3 des cellules de vigilance qui ne fonctionnent ou pas du tout, ou très insuffisamment. Donc, on espère, alors c'est pas le cas de Rhône, je le dis aux représentants de monsieur le préfet, justement, il se trouve que la cellule de vigilance du Rhône est plutôt exemplaire, et que donc, il y a possibilité, ça montre, il y a possibilité de faire fonctionner ces cellules avec efficacité et je ne sais pas exactement le contenu de la cellule de vigilance du Rhône, mais moi je ne pense pas que le président Roulet serait opposé à ce que que le défenseur des enfants est un représentant, mais n'empêche que je voulais dire que dans tout un tas de départements ça ne fonctionne pas bien, ou en tout cas pas suffisamment, et donc elle ne joue pas le rôle qu'on attendait, c'est-à-dire d'alerte, d'information, etc. Donc il faut vraiment que tous ceux qui sont ici, qui ont envie de mener chacun selon leurs responsabilités et leur niveau d'action, d'alerter aussi les préfectures, les préfets, leur dire voilà, il y a des cellules de vigilance qui doivent se mettre en œuvre, c'est le gouvernement, quel qu'il soit, qui le demande, qui l'a institué, qui y oblige, mais il faut que chacun le fasse. Parce que dans les départements, ça peut être effectivement très, très, très utile. Hein, je vais rajouter ça.
Bon, nous arrivons au terme de notre journée. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants qui sont intervenus, l'ensemble des intervenants. Vous remercier vous pour votre attention. Je voudrais aussi que remercier Nicolas Guillet et puis André Lesmet, Nicolas Tutelet, on est déjà debout, parce que ça a été les chevilles ouvrières de l'organisation de cette journée. Remercier particulièrement Martine Dalli et l'ensemble de son équipe. Vous avez pu apprécier la qualité de l'accueil pendant l'ensemble de cette journée. Je vous demande aussi de l'applaudir vraiment très fort. Travail dans des conditions comme ça, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Je voudrais remercier également Richard Michel, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Richard Michel est directeur de la chaîne parlementaire. Vous avez vu que la chaîne parlementaire a été parmi nous toute la journée. Et je crois savoir que vous avez l'intention de faire un sujet sur cette journée.
On m'a demandé la date tout à l'heure.
Voilà.
Sans doute lundi soir.
Sans doute lundi soir. Très bien. Je pense que c'est important parce que il est important aussi que ce genre de journée soit connu à l'extérieur et qu'il y ait une diffusion médiatique suffisante. Vous savez, les parlementaires, on n'est pas là que le mardi et le mercredi pour jouer les oiseaux dans la télévision. Enfin, les parlementaires, c'est aussi une commission, c'est aussi dans les commissions d'enquête, hein, que ce soit sur l'autre ou sur l'autre. Parce que le travail parlementaire, c'est pas ce que l'on voit forcément à la télévision. Et la chaîne parlementaire est un média qui réhabilite le travail parlementaire. Je pense qu'il est important que Richard Michel soit avec nous. Donc aujourd'hui, on peut l'applaudir aussi. Voilà, on dit tout à l'heure que nous, parlementaires, notre besace est bien pleine parce que nous avons beaucoup à faire. Hein. J'espère que nous allons réaborder tous ces sujets dans la commission d'enquête parlementaire que nous espérons créer dans les semaines qui viennent sur ce sujet, secte et enfance, et que nous nous nourrirons de ce qui a été dit aujourd'hui et des questions qui ont été abordées. Nous souhaitons également que l'année prochaine, alors au mois de mars, on ne sera pas loin des élections présidentielles et chaque équipe, donc peut-être qu'on essaiera d'avancer, on va voir comment on va se débrouiller. Mais je pense que et donc je pense qu'il est important que nous pérennisions cette rencontre pour faire un point très précis sur des sujets qui sont des sujets de société importants et que nous échangions, parlementaires, journalistes, associations et membres de la société civile sur des sujets comme ceci. Voilà, en tout cas, merci encore et puis j'espère à la prochaine. Thank you.